SBS Radio.
Vous rêvez d'une carrière down under, d'implanter votre start-up à Sydney ou de lancer votre concept sur le marché australien? C'est précisément à vous qu'a pensé Léo Denès quand il a créé Australians il y a 7 ans. L'idée? Faciliter le travail aux candidats à l'expatriation en les mettant FISA au parfum des différences culturelles entre les marchés du travail en Europe et en Australie. Léo, 37 ans, nous raconte son parcours, nous donne quelques conseils pour réussir son entrée dans la vie active du Lucky Country et répond sans se débiner à l'épineuse question « L'Australie de point, un Eldorado du boulot ?»
Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a énormément de contenu donc gratuit sur notre site internet. Donc le site en français, c'est australians.fr. Le site en anglais, c'est australians.com. Donc on a des guides, notamment comment préparer vos entretiens, comment faire un CV australien, etc. Donc je vous invite vraiment à les regarder. Et nous, on anime aussi donc, des workshops qu'on appelle « How to find your dream job in Australia ». La première chose qu'il faut savoir, c'est que trouver un emploi qualifié, c'est un petit parcours du combattant. Il faut être motivé. Et je dirais la principale erreur que les gens font, c'est qu'ils ne réfléchissent pas assez en amont sur ce qu'ils veulent vraiment faire, peuvent vraiment faire, en fonction de ce qu'ils ont déjà fait avant, leurs orientations. Et donc, ils vont avoir tendance à postuler en ligne à toutes les offres qu'ils peuvent voir, et c'est une approche plus quantitative que qualitative. Et ça, en fait, c'est pas l'approche que moi je recommanderais. Nous, sur les types de métiers où on conseille plus, donc qui sont plus des postes white-collar qualifiés, donc il va impérativement avoir un profil LinkedIn en anglais, avec une photo professionnelle, vraiment passer, je dis tout le temps, plus de temps sur LinkedIn que sur Facebook quand on est en recherche active. Donc il faut être sur LinkedIn, il faut avoir un profil attractif, il faut être actif sur LinkedIn, mais pas que pour postuler à des jobs, mais pour, ce que je dirais, networker. Et donc ça, c'est une autre chose que généralement les Français ou les nouveaux arrivants font mal, dans le sens où pour eux, networker, ça va être trouver des copains à peu près le même âge qu'eux, à peu près la même situation qu'eux, et qui vont pas forcément être ceux qui vont pouvoir les aider le plus. La bonne approche pour networker, c'est le faire de façon digitale. Et après, l'autre chose, c'est évidemment, networker, ça se passe dans le monde réel. Et donc, en fait, le fait d'aller à des événements, donc type chambre de commerce, la FACCI, pour la chambre de commerce franco-australienne, mais pas que. Et aussi, moi, ce que j'invite à faire, c'est si vous voulez travailler dans l'ingénierie, c'est d'aller aux événements de Engineer Australia, par exemple. Donc, c'est toujours de trouver l'industry body qui va organiser les événements dans lesquels vous pouvez rencontrer des pairs.
Beaucoup de gens en France, et notamment de jeunes gens, ont cette image parfois relayée médiatiquement de l'Australie comme étant un Eldorado professionnel. Qu'est-ce que vous en pensez?
Encore une fois, nous, je pense qu'on est contacté par à peu près 3000 personnes par an, dont beaucoup dans ce cas-là. Est-ce que c'est un Eldorado? Je suis partagé. Donc en fait, évidemment, les médias ont pendant des années relayé l'image de l'Eldorado, des gens qui vont surfer, qui terminent de bosser à 5 heures, etc. Mais ça a quand même une partie de vrai. Ensuite, quand on regarde le taux de chômage en Australie, par exemple, juste parler de Sydney Metro, c'est 4,6%. Donc c'est le plein emploi. Donc après, quand on compare avec la France, le vieux continent, évidemment, ça fait rêver, mais c'est des faits. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas un Eldorado. Est-ce que ça va durer? C'est plus la vraie question. Maintenant, ça fait plus de 20 ans que l'Australie est en croissance. Donc, je pense qu'il y a quand même des fondamentaux qui marchent quand même en Australie. Donc, si on regarde après toutes les matrices, le salaire moyen australien, etc., plus élevé. Donc, oui, ça vient avec un coût de la vie plus élevé. Mais oui, il y a plus d'opportunités professionnelles par habitant en Australie qu'en France. Oui, ça, c'est factuel. Maintenant, est-ce que les Français et quel type de Français vont réussir dans cette démarche-là? C'est une autre chose. Pourquoi? Notamment parce que le système d'immigration archi sélectif en Australie, qui est devenu encore plus et qui, j'espère, le deviendra un petit peu moins quand ils réaliseront que on est en plein emploi, qu'on est en train de se priver de gens qui peuvent travailler dans la construction, notamment dans les startups, dans un tas d'industries dans lequel on est en manque de gens, on n'arrive pas à trouver assez de gens sur le marché local. Oui, c'est possible. Oui, si vous le voulez vraiment, vous y arriverez. Mais ça ne va pas être facile.
Et justement, lorsque tu arrives, tu as déjà en tête de monter ta boîte?
À l'origine, je venais pas en Australie pour monter ma boîte. Après, je me suis toujours considéré comme un entrepreneur, en fait. Même quand j'étais salarié, j'avais toujours un tas de projets à côté. Donc, je dirais que c'est quelque chose que j'avais toujours eu en moi. Donc, je suis arrivé il y a un peu plus de 10 ans maintenant, en juin 2007, à Sydney. Et les raisons, je pense, c'était changer d'air, retrouver l'optimisme et la façon de travailler australienne, qui est un peu plus détendue qu'en France. La qualité de vie, évidemment. Voilà, un peu par défi personnel aussi de me réinventer après avoir passé 8 ans à Lyon. Et là, venait l'idée de justement monter Australians et de faire bénéficier de mon expérience aux personnes qui, elles-mêmes, souhaitaient s'expatrier en Australie. Et à l'origine, c'était vraiment une offre de coaching professionnel, donc aider les gens à trouver un travail en Australie. Depuis, le projet a beaucoup évolué, notamment aujourd'hui, on a de plus en plus d'entrepreneurs australiens ou internationaux en Australie, et entrepreneurs internationaux à venir sur le marché australien.
Mais lorsque tu arrives, toi, à titre personnel, qu'est-ce qui te frappe des différences culturelles que tu peux observer entre le monde du travail australien et le monde du travail en France ?
Donc, ce qui me frappe, c'est les relations, je dirais, avec les supérieurs. Ils sont beaucoup plus détendus, on sent beaucoup moins la hiérarchie. La relation aussi avec les clients. En France, quand un commissaire aux comptes arrive dans une entreprise, les gens le fuient, vont donner les documents le plus tard possible, le mettre au sous-sol dans une salle sans fenêtre, voilà. En Australie, c'était limite, les clients nous recevaient avec le café, les croissants. Après, il y a son pendant, hein, où justement les gens vont travailler un petit peu moins. Donc quand on a des responsabilités et que tout le monde part à 5 heures, en tant que Français, vous allez rester après finir le travail de tout le monde, etc. Mais ça, c'était vraiment la première chose qui m'a frappé, c'était les relations, je dirais, amicales au travail.
Et qu'est-ce qui a fait que vous avez ressenti le besoin de créer une structure qui permettait d'aider d'autres personnes et des entreprises à s'implanter ici?
Nous, ce qu'on offre, en fait, c'est surtout de ne pas faire toutes les erreurs des débutants que beaucoup d'entreprises font, parce que c'est la première fois qui sortent de leur pays d'origine. Bah, typiquement, il y a toutes les barrières à l'entrée possibles de comment créer une entité légale en Australie, éventuellement des problématiques migratoires. Parce que si vous voulez envoyer un employé, disons, de France à l'Australie, il faut s'y connaître en visa. Ensuite, vous arrivez ici, mais en tant qu'entreprise étrangère, si vous ne recrutez pas quelqu'un localement, vous arrivez sans réseau. Donc en fait, vous allez mettre potentiellement 18 mois à 2 ans avant d'être connu. Et entre, vous aurez peut-être eu pas mal de coûts et de gâchis d'argent sur des erreurs vis-à-vis d'un visa. Donc en fait, nous, ce qu'on apporte, c'est vraiment cette expertise-là et puis aussi le réseau.
Alors avec quel type d'entreprise est-ce que vous travaillez ?
Au début, je dirais, quand on a lancé notre activité de conseil aux entreprises, on a parlé à tout type d'entreprise. Maintenant, aujourd'hui, nous, vraiment le type d'entreprise qu'on est vraiment amené de plus aider, c'est ce qu'on appelle des tech startups, ou du moins des entreprises qui vont avoir une application, un software, parce qu'aujourd'hui, ils vont pouvoir avoir cette offre partout dans le monde, sans nécessairement avoir besoin d'amener 10-15 personnes sur le terrain. Nous, aujourd'hui, juste cette année, on a eu 7 entreprises qu'on a aidé à implanter en Australie.
Ça fait 7 ans que Australians existe. Vous êtes donc à même d'avoir un peu de recul et de faire un petit bilan. Racontez-nous une ou deux success stories dont vous êtes particulièrement fier.
La plus récente, dont je suis assez fier, parce qu'en fait, c'est sur un cycle d'un an, c'est pour le coup donc une entreprise de software australienne qui est venue nous voir et qui nous a dit nous, on est australiens, on voudrait aller en Europe, est-ce que vous pouvez nous aider? Là, on a vraiment inversé notre offre initiale et on a travaillé avec eux sur les différentes étapes, et aujourd'hui, là, en fin d'année, ils sont déjà à 3 employés à Lyon. Nous, des success stories individuelles, heureusement, on a quelques-unes aujourd'hui. Et là, cette année, je ne citerai qu'un cas parmi d'autres, mais le cas d'Augustin, un jeune Français sur un working holiday visa, vraiment un très bon profil, mais qui avait relativement du mal à se vendre dans les entretiens en Australie, qui était prêt à tout faire. Et que du coup, on a coaché pour vraiment remettre à plat avec lui c'est quoi les différentes options professionnelles sur lesquelles il pouvait aller en Australie, et notamment dans l'optique d'obtenir un visa de travail. Quand il nous a contacté, il lui restait même pas 2 mois de visa. Et parce qu'on lui a donné ces conseils-là, et aussi parce qu'on l'a connecté avec une entreprise, en moins d'un mois, il a réussi à avoir son contrat de travail. Et dans la foulée, juste avant le 19 avril, il a obtenu son visa 457. Et voilà.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.